Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens, mais surtout Antifa.
En direct du studio 511, une émission réalisée haut la main par Céline Hilla, assistée de June Loper, avec Loïc Frapsos à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, retour sur l'affaire Clément Méric. Alors que s'est ouvert cette semaine à la cour d'assises de Paris le procès des trois skinheads impliqués dans la mort de ce jeune militant antifasciste, nous sommes allés dans la rue où ses amis, ses proches et ses camarades lui ont rendu hommage, mais aussi au palais de justice et à la rencontre de ceux qui depuis longtemps enquêtent sur la résurgence de l'extrême droite partout en Europe.
C'est la montée internationale dans tous les pays de cette idéologie ancienne, mais qui a repris des couleurs, si j'ose dire, avec le phénomène des migrants et la crise sociale.
Le 3 juin 2013, il y a 5 ans, Clément Méric est tué par deux skins néo-nazis, membres de Troisième Voie, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, organisation dirigée par Serge Dibaskin Ayoub.
L'air du temps leur est favorable. Je dirais, le fond de l'air est noir.
Justice pour Clément!
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Comme un bruit qui, à force de courir, finira peut-être un jour à nous rattraper. Un bruit de haine, longtemps contenu dans les bas-fonds de l'histoire, mais qui résonne dans tout notre présent angoissé. Après des décennies de crise et de casse sociale au nom de la nécessaire adaptation aux règles du marché, nos sociétés démocratiques sont si mal en point que nous voyons un peu partout leurs pires ennemis reprendre du poil de la bête. Et le procès Méric, qui débutait cette semaine, est pour nous l'occasion d'essayer d'y réfléchir. Car les discours antifascistes, des vieilles manifs tous ensemble n'iront malheureusement pas changer grand-chose. Suprémacistes et identitaires, néofascistes comme néo-nazis, tous ripollinés à souhait, se sentent pousser des ailes. Et l'Europe, comme les États-Unis de l'oncle Trump, se barricade chaque jour davantage pour repousser celles et ceux qui sont chaque année moins nombreux à essayer de venir et plus nombreux à en mourir. De la chasse aux migrants d'Orban et Salvini à notre Gérard Collomb attisant les peurs d'être submergés, le grand remplacement, cette pathologie du repli, a empuanti l'air du temps et on commence, Charlotte, à en mesurer les conséquences.
Si les services de renseignement sont sur les dents pour tenter de traquer et déjouer les attentats terroristes des barbus, la montée du terrorisme d'extrême droite inquiète aussi et de plus en plus. En réplique à la crise des migrants et comme une image inversée des attentats de Daesh, les crânes rasés s'organisent, s'arment et se préparent à rejouer à leur manière la guerre d'Algérie. C'est ce que nous expliquera Frédéric Charpier, journaliste, auteur d'une longue enquête très fouillée sur l'histoire secrète de l'extrême droite violente.
Alors oui, quand la France a peur, les fachos, eux, n'ont plus peur. Bien sûr, il y a toujours eu débat du front, skin qui aime la castagne, et les exemples sont malheureusement nombreux, des cas où ils ont franchi la ligne rouge, comme Brahim Bouaram en marge d'une manifestation FN en 95. Mais il ne faut pas se tromper, le procès Méric n'est pas une histoire de faits divers, Antoine.
Non, et c'est une longue histoire que celle du fascisme, qui nous ramène à la prise de pouvoir de Mussolini en Italie en 1922, à celle d'Hitler en 33 en Allemagne, au coup d'état franquiste en Espagne en 36. La liste est longue et peut s'allonger jusqu'à nos jours, en passant par le coup d'état de Pinochet au Chili en 73 par exemple. Salvador Allende, presente! Mais toujours des vaillants résistants et militants antifascistes qui font front et qui continuent à le faire aujourd'hui, haut les cœurs. Aussi, on en parlera avec Hugo Paletta sur la possibilité du fascisme, la France, trajectoire d'un désastre, c'est un bouquin qui vient de sortir.
Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court pendant le procès, qu'est-ce qui a tué Clément Méric, militant antifasciste?
Il a été frappé très violemment hier soir vers 18h alors qu'il se trouvait en plein Paris du côté de la gare Saint-Lazare.
Clément, 19 ans, militant antifasciste et trois amis se retrouvent nez à nez avec un groupe de skinheads.
Et il était directement au sol, malheureusement sa tête a tapé, a heurté le sol. Donc.
Clément Méric se trouve actuellement dans un état de mort cérébrale.
Il est décédé cette nuit des blessures à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
C'est toute la République qui est en deuil ce matin.
Clément, 5 juin 2013, a jamais l'un des nôtres.
Il se relevait tout juste d'un combat contre la leucémie qu'il avait durablement affaibli. Son courage contre la maladie n'avait d'égal que sa détermination contre l'extrême droite et les inégalités.
Le fascisme, c'est la santé !
Qu'est-ce que vous voulez que je ressente ? J'ai ni pardon, ni oubli.
Qu'il l'a frappé précisément, les choses n'ont pas traîné, plusieurs personnes ont été interpellées aujourd'hui.
Tous appartenant à ou étant proches d'un groupe nationaliste radical baptisé Troisième Voie.
Comme un
qui court.
Nous ferons en sorte de comprendre ce qui s'est produit, de voir le caractère politique de cette agression et ensuite d'en tirer toutes les conclusions.
Je ne connaissais pas personnellement Clément Méric. J'ai compris, suite à sa mort, qu'une vie de lutte valait plus qu'une minute de silence.
Guy Vonctil, Charlotte Perry. Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
Alors, il y a plusieurs centaines de personnes là, sur la place Saint-Michel. Il y a une banderole qui a été tendue. 2013-2018, Clément présent face au fascisme, autodéfense populaire. Alors, les prises de parole commencent avec un mégaphone.
Donc voilà, aujourd'hui, si l'action antifasciste Paris-Banlieue a appelé à un rassemblement, c'est par rapport au procès qui va avoir lieu demain, du 4 septembre au 14 septembre, procès des meurtriers de Clément Méric. Le 3 juin 2013, il y a 5 ans, Clément Méric est tué par deux skins néo-nazis, membres de Troisième Voie, Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, organisation dirigée par Serge Zibatskin Ayoub. La stratégie de défense de Serge Ayoub et de ses amis quand ils arrivent au procès, c'est de dire « je n'ai plus rien à voir, c'est juste un drame, c'est juste un accident, c'est juste une rixe ». Notre devoir en tant que militant, c'est de dire « non, ce n'est pas une rixe, ce n'est pas une bagarre qui a mal tourné, c'est un meurtre politique ». Clément Méric a été ciblé parce qu'il a été reconnu comme militant antifasciste. Des gens et des femmes meurent en France parce qu'elles sont arabes, noires, homosexuelles, juives ou autres. Ce sont des martyrs racistes et des meurtres de haine. Objectif de l'extrême droite, il suffit d'écouter ces discours, il suffit de regarder ces vidéos, ces tracts, c'est d'exterminer ses ennemis politiques. Et Clément Méric était considéré comme un ennemi politique. Voilà, on va avoir d'autres interventions. Merci.
On vous remercie d'être venu ce soir pour l'ouverture du procès et on vous attend du coup dans la rue pour soutenir la famille, pour soutenir les camarades et le combat continue. Merci.
Il y a le rassemblement là, qui part en cortège vers le palais de justice. Qui part depuis la place Saint-Michel. Il y a plusieurs centaines de personnes, assez jeunes. J'ai passé le pont là, en arrivant sur l'île de la Cité, il y a un cordon de CRS qui s'est installé pour empêcher la manif de passer jusque devant le tribunal. Et retour en arrière.
Et recul.
Allez,
tout le monde recule, s'il vous plaît.
Et ça commence à gazer là. L'espace se rétrécit là petit à petit. Ça va nasser alors qu'il y avait un rassemblement pacifique.
Avancez vers le métro Saint-Michel.
Ah ouais, c'est la rentrée des NAS. Bah laissez-nous passer.
Je suis syndiqué.
Avancez vers le métro Saint-Michel et c'est bloqué de l'autre côté.
Ouais, non, mais voilà, c'est ça.
C'est une blague, quoi.
J'interviens ce soir au nom du collectif des maires solidaires. Nous sommes des maires de jeunes militants, antifascistes, syndicalistes, lycéens, libertaires ou autres, qui portent radicalement leurs idéaux de justice sociale. Nous avons développé des solidarités avec des collectifs de maires italiennes et espagnoles qui ont connu le fascisme et le franquisme et qui se sont organisés depuis de nombreuses années pour défendre leurs fils et leurs filles.
Quand ses cheveux étaient rasés, on savait où le trouver dans les environs. Comment peut-on le repérer quand le skinhead a les cheveux longs, changeant sa façon de s'habiller, dégrafant les croix gammées de son blouson. Dans la foule parmi des milliers, quand le skinhead a les cheveux longs.
Avant y avait dans Paris et quelques périphéries, les Redskins, les Psy, les clans de Tagger et les bombes.
pas mal de jeunes aguerris, au bastonnade en série, alimentant autant d'acteurs que de légendes. Et puis il y avait cette autre espèce, polluant l'air et comme une éruption d'herpès, sympa le résidu de l'occupation SS, en faction tellement répandue que les raisons laissent perplexe, à sillonner la street. Minimum à 10, un simple déclic et leurs neurones agissent, il leur suffisait juste de voir, de croiser un asiat, un arabe, une kippa ou un noir. Et là, c'était la ratonade ou la skin smile, te laissant dans un état digne d'une enquête d'X-Files. Motif de leur bon cœur contre les skin tabasse, conserver la grandeur et la pureté de la race.
Hey, tout le monde, les mains en l'air! Les mains en l'air! Tout le monde!
Clément Méric, tué en 2013 lors d'une bagarre, un étudiant devenu le symbole de l'engagement antifasciste, le procès de ses agresseurs présumés commence aujourd'hui à Paris.
Sa mort avait ému les Français et suscité la colère de centaines de militants antifascistes.
Aujourd'hui, trois accusés comparaissent aux assises, dont deux pour violence avec arme en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
Accès aux chambres correctionnelles. Alors c'est pas en correctionnel, c'est aux assises. Mais on est à l'ancien palais de justice et le plateau correctionnel a été mis au service de ce procès d'assises qui est en train de se dérouler du 4 au 14 septembre.
5 ans après le décès de Clément Méric, le procès des 3 skinheads impliqués dans sa mort devait débuter ce mardi, mais il a été suspendu, l'un des accusés ne s'étant pas présenté.
Amis, camarades, en fait, le procès a repris. Donc, on ne va pas attendre les camarades du comité pour Clément qui sont là-bas, puisqu'ils risquent de se poursuivre jusqu'à 22h, voire 22h30, avec le retard pris ce matin, avec la disparition bizarre d'un des 3 accusés. Et puis là, maintenant, on va faire une petite manif symbolique jusqu'au panneau sens interdit là-bas. Donc je vous invite à suivre les camarades et aller jusque là-bas. Merci à toutes et tous d'être venus nombreuses et nombreux.
Et là donc il y a un autocollant qui a été collé sur le panneau rue Comartin. Et la rue a été rebaptisée rue Clément Méric. 30 novembre 1994, 5 juin 2013, militant syndicaliste antifasciste tué par l'extrême droite.
Après 5 ans d'enquête, la volonté de tuer n'a pas été retenue par la justice, mais il reste de nombreuses zones d'ombre. Qui a frappé en premier? Les skinheads ont-ils utilisé un coup de poing américain?
Clément Méric, 18 ans, étudiant à Sciences Po et militant d'extrême gauche, tombé sous les coups de skinheads dans ce quartier parisien.
Le prénommé Esteban a reconnu en garde à vue avoir porté 2 coups, soutient-il à main nue, sur Clément Méric, dont le coup l'ayant fait chuter.
Il n'y a pas une démarche politique de la part de Morillo et de ses amis.
Le mentor des accusés, le leader d'extrême droite Serge Ayoub, viendra d'ailleurs témoigner au cours du procès.
Bien évidemment qu'il y a une dimension politique, puisque c'est une violence construite, idéologiquement construite.
Frédéric Charpier, vous êtes journaliste, spécialiste du renseignement. Vous venez de publier une longue enquête sur l'histoire secrète de l'extrême droite violente. Et cette semaine s'est ouvert donc aux assises, le procès des agresseurs de Clément Méric. Donc 3 skinheads, membres ou sympathisants de Troisième Voie et des jeunesses nationalistes révolutionnaires, qui sont tous deux dirigés par Serge Ayoub. Donc lors de son audition, Esteban Morillo, le principal accusé, décrivait Troisième Voie comme un syndicat ni de gauche ni de droite aux convictions solidaristes. Tout ça semble un petit peu lisse comme définition. Est-ce que vous pourriez nous resituer ce que c'est que Troisième Voie, les JNR, et qui est Serge Ayoub, donc qui dirige ces deux organismes?
Bon, alors Troisième Voie, c'est essentiellement d'origine italienne, hein, un groupuscule qui s'appelait Terza Posizione, qui a donné en France Troisième Voie, fondée notamment par Jean-Gilles Maliarakis, qui est une personnalité, on va dire, du milieu d'extrême droite français de longue date, qui a eu l'idée au milieu des années 80 de s'associer à Serge Ayoub et à son groupe de skinhead qu'il a intégré comme section skinhead à l'intérieur de son mouvement. Ils avaient créé les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Bon, et tout ça, Ayoub a récupéré, on va dire, ses sigles, plus que des organisations, c'était des petits groupes, donc, qui étaient, ressemblaient plus à un service d'ordre qu'à un mouvement politique. Bon, quant à la connotation solidariste, là aussi, c'est une forme de troisième voie. Ni Moscou, ni Washington. Cette théorie selon laquelle les gens prétendent que l'extrême droite se situerait toujours ailleurs, alors qu'en fait, ils se situent à l'extrême droite, point à la ligne. C'est des groupes qui rejettent la démocratie et ses formes. C'est des gens qui ont une culture et une idéologie antidémocratique, anti-électoraliste, etc. Donc ils sont, par principe, violents. Parce que comment voulez-vous changer de régime si vous refusez de passer par les urnes ?
Je suis l'ancien dirigeant d'un mouvement qui s'appelait Troisième Voie, d'essence solidariste. Et on peut me qualifier d'une tendance patriotique et sociale. Moi, je suis un combattant politique. J'ai toujours cherché à l'être et je combats mon ennemi. À l'époque, il faut comprendre, et d'ailleurs c'est ça qui a beaucoup plu, c'est ces histoires de bagarres de rue, on était obligés de se battre. C'est sinistre, mais c'est vrai, les gens me connaissent parce que je me suis battu. Combien me reprochent jusqu'à présent ce que j'ai été, ce que je ne renie pas, Batskill. Mais si je n'avais pas fait ça, eh bien, on ne m'aurait pas écouté, mes idées ne seraient pas passées. J'ai fait avec ce que je pouvais, avec ce que j'avais entre les mains.
Ayoub s'est construit dans les années 80, notamment par ses bastons qui ont été filmés sous tous les angles, par tous les médias. À l'époque, il était très content d'avoir cette bête de scène, hein, parce que c'est ça, c'est un type qui croit beaucoup au marketing politique et des médias, et il a su grosso modo vendre cette image-là de mec Batskin, il se faisait appeler à l'époque, ce qui en dit long sur le résumé de la chose.
Contraction entre batte de baseball et skinhead.
Exactement, voilà, donc on sent bien que la batte de baseball, comme il jouait pas au baseball, donc ça devait servir à autre chose, et bon, ça servait effectivement à autre chose, donc il s'est singularisé, lui et son groupe, hein, qui est un peu, grosso modo, aujourd'hui le même groupe, hein. Il y a du renouvellement de génération, mais c'est un peu la même idée, voire les mêmes personnes. Hein. Voilà, donc Ayoub, il a une aura, on va dire, dans certains milieux activistes d'extrême droite. Il fascine beaucoup de gens. Il a une véritable autorité, parce que l'extrême droite, c'est d'abord une autorité de chef. C'est à l'extrême droite, vous existez. Si vous voulez être un chef, il faut avoir une certaine forme d'autorité, vous imposer, etc. Souvent, on s'impose aussi par le glaive. Hein. C'est comme ça qu'on tient ou la batte de baseball. Et voilà, et donc Ayoub, il traîne ça, on va dire, derrière lui. C'est quelqu'un qui continue d'avoir une influence dans certains milieux. Souvent, les gens se sont revendiqués de lui et il se retrouve souvent devant les juges parce qu'il apparaît dans les procès-verbaux d'audition des gens qui sont poursuivis pour des crimes. Voilà, des gens qui aiment bien être entre eux, hein, boire de la bière, se taper un étranger qui passe. Leur idéologie, ça doit se résumer à ça. C'est tourné toujours dans le schématisme, parce qu'au fond, on va dire que dans ces groupuscules-là, vous avez souvent quand même une base qui, sur le plan intellectuel, est plutôt, on va dire, voilà, qui laisse un peu à désirer. Quoi, voilà.
Parce que par exemple, donc, Esteban Morillo avait tatoué sur le bras « Travail, famille, patrie », mais il a fait valoir qu'il ne savait pas du tout que c'était lié à Vichy ou à quoi que ce soit, que c'était trouvé juste ça joli. De même, sur sa page Facebook, le seul livre auquel il faisait référence, c'était « Mein Kampf ». Mais il ne savait pas pourquoi il avait mis ça, en fait. C'était pour faire le malin devant les copains, quoi.
Ben, disons que quand vous baignez dans cette mouvance, vous avez, c'est un peu la surenchère permanente. Mais sur le triptyque, là, pétainiste, ben, c'est, Ayoub s'en est souvent revendiqué aussi. Hein, du travail famille-patrie. Oui, mais c'est tourné toujours dans le schématisme. Parce qu'au fond, on va dire que dans ces groupuscules-là, vous avez souvent quand même une base qui, sur le plan intellectuel, est plutôt, on va dire... Voilà, qui laisse un peu à désirer, quoi, voilà.
Quand le skinhead a les cheveux longs,
le skinhead a les cheveux longs, pas passant pour un baba cool. Un papa cool avec son gamin dans la foule. Loin d'être rare, aujourd'hui faut le voir. Il pourrait vous faire croire qu'il a un pote noir. L'esquine a dû apprendre à respirer sous l'eau. Remplacer le grand locuteur pour un stylo. Mais son âme ayant gardé ses mâles sans penchant. Le résultat n'en est pas moins tranchant. Et qu'elle est plus nulle part sans se faire savate. Peuvent continuer de se voir en costard cravate. Faire des affaires, du bif dans la presse, dans les sables. Bref, tout ce qui est lucratif, même produire du rap. Profitons de l'alibi de leur anonymat. Ils ne se révéleront pas de la PACA Ariba. Continuons leurs œuvres sans que rien ne les gêne. Ayant pour arbre qui cache leur forêt le FN.
Quand ses cheveux étaient rasés, on savait où trouver dans les environs. Comment peut-on le repérer quand le skinhead a les cheveux longs? Changeant sa façon de s'habiller, dégrafant les croix gammées de son blouson. Dans la foule parmi des milliers, quand le skinhead a les cheveux longs.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Jeudi 6 septembre, palais de justice, suspension d'audience. C'est le troisième jour hein, du procès. Donc, ouais. Des agresseurs de Clément Méric hein, qui l'ont tué. Quand même, hein. C'était il y a 5 ans maintenant, c'était le 5 juin 2013. Et vous êtes venu pour assister à ce procès, c'est ça? Vous vouliez pouvoir oui, mais rentrer
En fait, moi je suis une militante à la base, hein. À la LDH d'ailleurs. Donc l'antifascisme, on se bat contre depuis longtemps, quoi. La mort de Clément Méric, voilà, on était là, on était présents, et j'étais présente. Donc c'est normal, et j'ai suivi, et je suis depuis tout le temps, et je suis toujours présente tous les ans pour
l'hommage qu'il lui a rendu, c'est ça. Ouais.
Commémoration, ouais. Les manifestations, tout ce qui a pu être fait. Voilà, donc c'est normal qu'on vienne au procès aussi, parce que on peut pas avoir eu de l'émotion et toute cette colère qu'on avait à la mort de Clément, et ne pas être présent aujourd'hui, ne serait-ce que pour la famille. Ne serait-ce que pour la famille. Donc voilà, maintenant, ce qui est très dommageable, c'est comment les choses ont été organisées sur ce procès. Il y a des salles libres beaucoup plus grandes hein, qui auraient permis l'accès au plus grand nombre. Et voilà, toutes les mesures là de sécurité qui sont mises, qui sont de folie, quoi. Mais là, on est au troisième jour, il ne s'est rien passé depuis lundi. Donc là, ils ont bien compris qu'il ne se passerait jamais rien. Que les antifascistes sont assez intelligents pour ne pas faire des bêtises. Surtout sur un procès où, voilà, on attend beaucoup, hein. Donc on est obligé de rester des heures debout pour espérer pouvoir avoir une place. Non, là je viens d'essayer 3 heures d'attente pour abandonner l'affaire, quoi, j'en peux plus. Donc ça c'est pas normal, la justice elle est rendue au nom du peuple. L'accès dans une salle d'audience devrait être possible au plus grand nombre, et là c'est pas le cas. Et ça c'est juste pas normal. Voilà.
Vous voulez vous présenter ou pas?
Oui, je m'appelle Nadia et je suis membre de la LDH, à Clichy-la-Garenne. Je ne vais pas en rajouter plus parce que j'ai quand même quelques petites menaces de mort à mon actif de la part des fascistes. Donc,
c'est ça. Donc c'est dangereux d'être membre de la LDH aujourd'hui en France, quoi.
Non, c'est dangereux de faire face, d'affronter les fascistes en France. Le Front National et tous les groupuscules. Hein. Clément n'a payé de sa vie. C'est dangereux, mais on ne lâchera pas l'affaire. Et moi, je ne céderai jamais à la peur.
Et Nadia, on parle d'une résurgence des mouvements fascistes en Europe et en France aussi. Vous le sentez, vous, qui militez sur le terrain?
Oui, complètement. De plus en plus sur des choses dans les villes, etc. Quand même, ils arrivent, ils peuvent arriver en masse dans des villes, faire des actions tranquillement. On les a vus aussi dans les universités. On a vu quand même pas mal de choses.
Et là, ce qui est quand même aussi assez étonnant, on va dire, c'est que l'ombre de Serge Ayoub, qu'on retrouve un peu derrière beaucoup de crimes fascistes, hein, donc la mort de Clément Méric, mais aussi des crimes qui ont eu lieu à Lille il y a quelques années maintenant. Et donc aujourd'hui, c'était aujourd'hui qu'il devait comparaître, et il s'est permis d'envoyer un certificat médical un peu succinct et de refuser de se présenter aujourd'hui.
Ouais. Ils se sentent aussi forts. Hein. Fort parce qu'ils ont quand même quelques parlementaires, hein, quelques députés à l'Assemblée nationale. Ça change les choses aussi, ça. Ça change les choses. Parce que ça dit quoi d'avoir autant de députés Front National à l'Assemblée nationale? Ça donne une légitimité à ces idées fascistes. Ça veut dire que c'est pas si grave.
Et vous êtes plus jeune. Pourquoi vous vouliez assister à ce procès et aller dans la salle d'audience? Non. Vous n'avez pas pu rentrer dans la salle non plus?
Malheureusement, on est obligé d'être antifasciste pour... Enfin, de se revendiquer antifasciste aujourd'hui pour dénoncer le fait qu'il y a encore des fascistes aujourd'hui.
T'as quel âge, toi?
Moi, j'ai 20 ans.
Et c'est dangereux, alors
Clément Méric, il l'a payé de sa vie. C'est dangereux aujourd'hui d'être dans, de lutter contre le fascisme ?
Ah bah oui. Oui, parce que c'est une idéologie qui n'est pas forcément punie par la loi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils s'y intéressent pas. En fait, ils se disent, en fait, c'est... Enfin, le nazisme et tout, ça n'existe plus, alors qu'aujourd'hui, si, ça existe encore.
Qu'est-ce que t'attends de ce procès ?
J'attends que... Bah, on dit, en fait, de ce procès que c'est le procès de l'extrême droite. Bah voilà, moi, j'attends que qu'on condamne fermement le fascisme d'aujourd'hui, qu'il soit violent ou non. Et... Enfin, de toute façon, le fascisme, c'est forcément violent, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'à travers la violence, il y ait l'idéologie aussi qui soit... Dénoncer.
Qui soit dénoncé. Ouais, c'est ça.
Logan N., 21 ans, exprime sa volonté de passer à l'action contre, je cite, « les blacks, racailles, djihadistes et migrants ».
Le jeune homme propriétaire d'armes est un admirateur d'Anders Breivik, le terroriste qui avait tué 77 militants de gauche en Norvège en 2011.
Pour les services de renseignement, la radicalisation de groupuscules d'extrême droite était prévisible.
Que le WWK, groupuscule néo-nazi, sera devant la justice demain.
Un groupuscule s'apprêtait à viser des mosquées, mais aussi des imams et des femmes voilées dans la rue.
Les arrestations ont eu lieu en région parisienne, en Charente-Maritime, dans le Cher, en Haute-Vienne et en Corse du Sud.
C'est la deuxième fois en quelques mois que la DGSI démantèle tout un réseau d'extrême droite supposé ultra-violent, ce qui montre bien à quel point cette menace, elle est bien réelle.
Voilà pourquoi, pendant que la justice cherche ceux qui ont tué Clément Méric, il faut s'intéresser aux idées qui l'ont tué. Car il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé en France ce jour-là, il y a 5 ans, mais d'un mouvement de fond qui légitime l'extrême droite la plus violente tout autour de nous en Europe.
Oui, et aussi une droitisation insidieuse et radicale de la politique en France et en Europe qui infuse doucement la société, qui finit par accepter l'inacceptable et voter pour l'AFD en Allemagne, ou même une partie de la gauche vire xénophobe, le PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas, le FPO en Autriche, la Ligue de Salvini en Italie, le Jobbik d'Orban en Hongrie et le FN rebaptisé RN, Rassemblement National, qui fait des scores en France.
Et il n'y a pas donc que les antifascistes qui s'inquiètent de cette resurgence de l'extrême droite. Qu'elle soit au pouvoir, dans la rue, dans les têtes ou dans le maquis. Ces deux dernières années, de nombreux coups de filet ont eu lieu dans les milieux d'ultra-droite, avec le démantèlement de plusieurs cellules. L'OAS de Logan-Nizan, en référence à l'OAS historique du temps de la guerre d'Algérie, l'AFO, l'action des forces opérationnelles, composée d'anciens policiers et de militaires, le WWK, White Wolf Clan, groupuscule lillois issu de la dissolution de Troisième Voie. Nous sommes donc retournés voir le journaliste Frédéric Charpier, auteur des Plastiqueurs, une histoire secrète de l'extrême droite, pour lui demander ce que ces nombreuses arrestations signifiaient.
D'abord, les services de renseignement s'y intéressent. D'ailleurs, de l'aveu même d'un ancien patron de la DGSI qui l'a dit devant un aréopage de parlementaires. Donc il y a une véritable sensibilité à cette résurgence d'une violence politique issue de l'extrême droite. J'ajouterais qu'il y a autre chose aussi. Il y a le phénomène des migrants, tel qu'il est vécu en Europe. Ça a transformé le microcosme d'extrême droite en une véritable cocotte minute. Il y a de plus en plus de gens ont décidé, dans leur tête, hein, mais on ne sait-on jamais, le risque est toujours possible, de lutter contre cette espèce de fantasme là qui déferle du grand remplacement, c'est-à-dire des couches successives d'étrangers qui vont finalement éliminer la race blanche européenne, chrétienne, classique, et prendre la place, et que toute cette entreprise serait déjà à l'œuvre. Bon. Alors ça, si vous voulez, c'est une thématique qui est très ancienne, qui a été lancée au début des années 60 par un des pontes de l'extrême droite activiste qui s'appelait Dominique Vénère, qui s'est suicidé il y a quelques années à Notre-Dame de Paris en se tirant une balle dans la tête. Voilà, et donc l'idée, c'était, après la décolonisation, de voir arriver des travailleurs immigrés qu'on allait chercher là-bas pour exploiter en France. Donc eux, ils voyaient simplement une transposition de la guerre d'Algérie ou de la décolonisation, et ils se sentaient assaillis. Déjà à l'époque, hein, vous avez des écrits qui sont hallucinants d'actualité, et qui date de 63, 64, 65. Donc au fond, ce qui est inquiétant, c'est surtout ça. C'est de voir que dans ce microcosme, les gens sont de plus en plus mobilisés sur ce thème. Et pas qu'en France, il y a beaucoup de connexions avec des groupes étrangers. On voit bien qu'il se passe quelque chose, d'autant qu'un certain nombre de militants activistes d'extrême droite sont opérationnels sur certains fronts. On en retrouve en Ukraine, on en trouve en Syrie. Des groupes néo-nazis, par exemple, Obdoré, a envoyé une escouade en Syrie pour défendre le régime de Bachar el-Assad. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? C'est qu'on a des gens qui se forment, comme autrefois, du temps de l'OAS, des gens qui vont finir par être expérimentés et aguerris. Et ça, c'est pour un service de renseignement, c'est là où ça devient dangereux et sérieux. Et au-delà de tout ça, je crois même que certains services imaginent des interférences avec des services de renseignement étrangers, notamment russes, pour être clair, dans cette mouvance-là.
Mais ce qui a inquiété beaucoup l'avocat général hier au procès, c'est que des gens aujourd'hui se revendiquent librement néo-nazis et fascistes, sans savoir très bien ce que c'est, mais en tout cas, emporter les valeurs et l'afficher comme si c'était d'une extrême banalité et des idées que l'on pouvait afficher comme ça, librement.
L'idéologie néo-nazie, elle n'a jamais cessé d'exister. Avec des gens qui sont d'une autre génération, mais qui continuent de porter des convictions, le projet, mais qui n'est pas forcément le projet d'autrefois. C'est-à-dire que le néo-nazisme, avec ce que ça peut avoir comme ça, a priori, de caricatural et de folklorique, ce n'est qu'un aspect mineur, très mineur, du vrai problème. Parce qu'au fond, ce qu'on redoute le plus, ce n'est pas tellement les folklos. Généralement, ils sont tous plus ou moins tenus et serrés par la police, y compris le mouvement de M. Ayoub. Il faut penser à ce qui est plus large. C'est ces fameux réseaux européens qui existent. Vous avez beaucoup de gens qui ont participé dans les années 60-70 à ces groupuscules d'extrême droite activistes, qui aujourd'hui sont des leaders d'opinion dans leur pays, en particulier en Italie, où l'ère de Berlusconi a favorisé leur ascension un peu partout. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut redouter le plus. Les folklos, il faut évidemment s'en inquiéter, surtout quand il y a des morts. Mais le vrai danger, c'est pas eux. C'est les politiques qu'il faut voir. Les politiques nationales, xénophobes, autoritaires. C'est ça qui fait un régime d'extrême droite. Ah, c'est pas un mec qui se tatoue, travaille, famille, patrie sur le bras. Voilà, donc là, surtout, ce qui est inquiétant, c'est la montée internationale dans tous les pays de cette idéologie ancienne, mais qui a repris des couleurs, si j'ose dire, avec le phénomène des migrants et la crise sociale. C'est quand même un combustible important pour ces groupes-là. L'air du temps leur est favorable. Je dirais, le fond de l'air est noir.
Jeudi 6 septembre, troisième jour du procès de l'affaire Mérique à la cour d'assises de Paris. Cet après-midi, la cour a entendu Thomas Lopez, vendeur. Il dit les skinheads faisaient leur achat. Les premières tensions ont lieu dans le showroom. J'ai vu le skinhead lever la main d'un mannequin pour faire le salut nazi. Après, pour moi, ils ne faisaient pas grand-chose de mal. Ils étaient tranquilles, en train de délirer. Clément Méric est venu voir les skins. Il était très excité. Ça se sentait qu'il voulait régler des comptes. Pour moi, le groupe le plus excité était le groupe de Méric. Il faisait de la provocation, genre chef de meute. Il s'est adressé à eux et ont dit « Descendez si vous avez des couilles ». Moi, je suis descendue en bas discuter avec les skins. Ils se sentaient un peu encerclés, pris au piège. Ils ne savaient pas s'ils devaient sortir. Je leur ai dit « Ne rentrez pas dans leur jeu, ne répondez pas à la provocation ». Mais je les ai vus vider leurs poches et ils ont mis toutes leurs affaires dans le sac de la fille, comme pour se préparer à se battre. J'ai vu un faire le geste d'enfiler quelque chose sur sa main gauche. Clément Méric s'est approché, le skin l'a frappé avec l'objet. Il a envoyé un direct du gauche. Clément Méric s'est dressé comme un I et tombé raide. Après, j'ai vu le skin écarter les bras, il faisait le fier. Il avait le crâne rasé, il était fin, il faisait à peu près 1m80. Samuel Dufour reconnaît avoir joué avec le mannequin. C'était pour jouer, je faisais le con. ...18h21. L'audience a repris, la cour entend le témoignage de Madame Méric. Agnès Méric, 59 ans, retraitée. Clément est le plus jeune de mes enfants. Il avait 18 ans quand il est mort. Il était parti à Paris faire ses études à Sciences Po. Il avait énormément de convictions. C'était un militant, mais pas que ça. Pour nous, c'était un fils, un garçon attachant. La partie civile a souffert de sa mort, mais pas que. Beaucoup de gens ont souffert de sa mort. C'était extrêmement important pour lui, l'égalité, le respect de tous. Il a pris conscience des injustices sociales, de la pauvreté. Il s'intéressait aux questions de domination, de racisme. Et en grandissant, à la question du sexisme. Vers l'âge de 14-15 ans, il a rencontré un groupe de jeunes anarchistes qui participaient aux luttes sociales. Il faisait de la guitare, participait à un groupe. Il avait le souci des rencontres de gens de différents milieux, de s'ouvrir. Il a fondé la section solidaire à Sciences Po, fait la connaissance de personnes, de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Il était toujours ouvert à l'opinion d'autrui. C'était un garçon calme, courtois, pouvait manifester très fermement ses positions, sans complaisance. La présidente, qu'attendez-vous de ce procès ? J'attends le respect de la mémoire de Clément, de qui il était. Beaucoup de choses nous ont heurtés. Il pensait que tous, quel que soit son capital culturel, avaient les moyens de réfléchir. J'attends que la mémoire de mon fils soit respectée. La présidente, souhaitez-vous vous adresser aux accusés ? Agnès Méric. Moi, je me demande si eux ont envie de me dire quelque chose. Après la reconstitution, j'espérais. Si on est des humains, on doit se sentir concerné par cette chose qui nous lie. C'est pas possible qu'il ne se passe rien entre nous. À un moment, je me trouvais en face de M. Morillo. Il m'a fait « pfff », l'air de dire « c'est long ». Et je me suis demandé si on avait quelque chose d'humain en commun. Hier, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de prise de conscience de ce qui s'était passé et de pourquoi. Samuel Dufour se lève et prend la parole. Ça ne va pas être du même niveau, c'est sûr. Je suis désolée, mais j'ai pas touché votre fils. Esteban Morillo se lève. Je suis honteux. Il pleure. Je regrette. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Je n'aurais pas voulu être là. L'avocate. Comment avez-vous vécu la médiatisation ? Nous ne connaissons pas le monde de la fachosphère, on a découvert ça. On a reçu des appels malveillants. Une personne nous a harcelés, nous a dit des choses scabreuses sur son cadavre. Mais on a choisi de ne pas se laisser envahir par ça. On voulait se laisser envahir par la vie de Clément, de continuer de le vivre à travers ses amis. 19h30, fin des auditions. Le procès reprendra demain à 9h30.
Là, il y a un jeune là, qui paye pas de mine, qui est assis sur des marches, avec, qui tapote sur son ordinateur. Il y a des autocollants casse à pound. Donc c'est vraiment les groupuscules fascistes néo-nazis italiens qui sont venus soutenir leurs camarades français ici. Là.
C'est bon ? Ok. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être ici aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Je suis à Solidaires étudiants. Donc, le 5 juin 2013, notre ami et camarade Clément Méric était assassiné par des fascistes à Paris. Comme nous, il était alors étudiant, militant, antifasciste, syndicaliste. Pris pour cible du fait de ses engagements politiques, Clément Méric a été victime d'un assassinat politique. Dans un contexte de criminalisation des mouvements sociaux et des militants, il est important de rappeler que c'est l'extrême droite et ses idées qui violentent, qui blessent et tuent partout en France et ailleurs, hier comme aujourd'hui. Ce procès doit être l'occasion pour nous de réaffirmer publiquement, partout, que le fascisme est un poison et que la résistance antifasciste doit continuer à s'organiser. Dans nos facs comme sur nos lieux de travail, dans les rues comme dans les discours. Ce procès sera l'occasion de faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat et qu'en soit reconnue et jugée la dimension politique. L'extrême droite tue, faisons son procès.
Donc là, on est devant le palais de justice. C'est le troisième jour du procès donc, des agresseurs de votre camarade. Hein. C'est ça, c'était un camarade, Clément, à vous, qui faisait partie aussi de l'action antifasciste Paris-Banlieue.
Clément était un camarade qui faisait partie de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Et donc, on est au troisième jour du procès de ces assassins, pas juste agresseurs, c'est ça.
L'action antifasciste Paris-Banlieue, c'est une organisation affinitaire qui prône un antifasciste autonome et anticapitaliste. C'est une organisation qui est composée d'environ, on va dire, 30 personnes qui sont des amis et camarades en même temps et qui peuvent mobiliser jusqu'à 60-70 personnes sur certains événements.
On s'inscrit plutôt dans un renouveau de l'antifascisme. On vient avec nos codes, nos manières d'être, nos trajectoires individuelles, notamment les questions liées aux violences policières, les questions liées aux quartiers populaires, les questions liées au racisme d'État. Donc tous ces points-là, en fait, nous, on décide d'en faire une priorité parce que la fascisation de la société, elle prend forme aussi à travers ces points-là. Et donc, pour nous, c'est vraiment important de réactualiser notre lutte antifasciste autour de ces questions-là.
Le fascisme, les idées d'extrême droite, les idées nationalistes, les idées islamophobes, les idées autoritaires, elles ont largement dépassé le spectre de la seule extrême droite et du Front National qui s'est rebaptisé depuis. Elle a largement dépassé les identitaires ou les nationalistes et elle s'inscrit jusque dans le champ politique républicain, jusque dans le gouvernement Macron actuel. On a des pratiques contre les migrants, on a des pratiques contre les musulmans, on a des pratiques impérialistes qui vont semer la guerre dans des régions considérées du sud global. Et en fait, tout ça, ça nourrit un fascisme ambiant parce que les politiques impérialistes nourrissent le terrorisme, nourrissent également les crises migratoires et donc du coup l'afflux de réfugiés qui ensuite est traité de manière raciste par une certaine branche des médias et par les institutions. Et c'est pour ça que nous, en fait, notre antifascisme, il porte pas uniquement contre les nazis, les nationalistes et les skinheads ou quoi que ce soit, et que on l'inscrit vraiment dans une démarche globale de lutte contre une fascisation de la société.
Ceci n'est pas un hymne à la loi du talion. Ni oubli, ni pardon. Face à cette église, cette foutue rue, l'affront. L'insouciance répond la violence des raisons. Vois-tu réapparaître l'antidote des charlatans nazis, leur dote. Toujours à vouloir rejeter la faute sur les immigrés à nos portes.
Alors, Hugo Paletta, on est en marge du procès des assassins de Clément Méric aux assises ces jours-ci. Alors vous êtes sociologue, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Lille et vous sortez bientôt un livre, La possibilité du fascisme, France, trajectoire du désastre.
L'idée dans ce bouquin, c'est de se demander si les conditions de possibilité du fascisme sont aujourd'hui d'une manière ou d'une autre réunies, à partir de quoi une offre politique de type fasciste peut trouver une audience dans la société française, mais on pourrait avoir le raisonnement ailleurs. Hein. Évidemment, les questions se posent aussi en Allemagne avec le développement d'une extrême droite particulièrement islamophobe, l'AFD, en Italie évidemment avec la Lega, en Hongrie, en Pologne, etc. Donc il y a clairement une lame de fond alors d'extrême droite, en tout cas ça c'est certain en Europe, et qui je pense a quelque chose à voir à un lien étroit hein, avec le fascisme classique, même si évidemment l'histoire repasse pas les plats assaisonnés de la même manière. Hein, donc il y a évidemment des choses qui changent. Hein, par exemple, l'antisémitisme n'est plus aussi central et même n'est pas central dans une partie de l'extrême droite européenne. Et même une partie de l'extrême droite européenne cherche au contraire à virer les militants les plus farouchement antisémites, hein, on l'a vu dans le cadre du Front National, mais généralement pour le substituer un racisme qui apparaît beaucoup plus respectable aujourd'hui, qui est le racisme qui cible les musulmans, l'islamophobie. Donc voilà, moi mon raisonnement, c'est ma question en fait, c'est à partir de quoi réémerge un danger fasciste contemporain en fait. Hein. Donc à mon avis, il y en a plusieurs. Hein. Il y a d'abord la crise du capitalisme néolibéral hein, et le fait que le néolibéralisme a permis au capital de se rétablir, de rétablir ses taux de profit, mais en même temps, ça a déstabilisé le système social et politique dans toute une série de pays, et notamment en France. Le deuxième élément, je pense, c'est la dérive autoritaire, qui est le fait hein, de gouvernements qui ne sont pas fascistes, qui ne sont pas d'extrême droite, qui peuvent être des gouvernements même de centre-gauche ou évidemment de droite, mais qui évidemment a tendance à légitimer les solutions qui sont préconisées par l'extrême droite. Hein. Une série de gens se disent, on voit déjà des mesures qui sont mises en place, mais ça va pas assez loin. Il faudrait peut-être faire en fait ce que prône l'extrême droite, remettre de l'ordre, etc. Je dirais qu'il y a quand même évidemment le renouveau du nationalisme sous les formes les plus xénophobes et les plus racistes, et avec notamment cet instrument particulièrement puissant qui est la haine des musulmans, hein, c'est-à-dire l'islamophobie, hein, et dont on sait qu'elle est particulièrement forte, notamment en France.
Alors il y a eu une mutation alors, du fascisme, on peut revenir 100 ans en arrière, c'est Mussolini qui crée le premier parti fasciste en Europe et qui prend le pouvoir.
Alors le fascisme évidemment il est évolutif et il réapparaît pas sous les mêmes formes, hein, mais ce qui quand même était un peu au cœur du projet fasciste, hein, c'est l'idée qu'il faut régénérer la nation, la faire renaître en la purifiant des éléments qui créent du conflit, qui créent de la division, donc évidemment les minorités ethno-raciales, éventuellement les minorités religieuses, évidemment tout ce qui est un ferment de contestation, donc les mouvements sociaux, hein, ce que proposent les fascistes globalement, et ce que font les fascistes quand ils parviennent au pouvoir, c'est de détruire les mouvements syndicaux, de détruire les mouvements sociaux, de détruire les mouvements antiracistes, que ce soit en Italie, en Allemagne, mais même évidemment au Portugal, en Espagne, sous des formes différentes. Hein, bon. Donc voilà, et une des particularités du fascisme par rapport à, disons, des dictatures militaires classiques, c'est que le fascisme cherche à avoir une adhésion de masse, à ce qu'une partie importante de la population se retrouve derrière les leaders fascistes et les organisations fascistes. Ils jouent la carte légale, constitutionnelle. Tous les partis fascistes ont joué cette carte-là. Hein. Et ni en Italie ni en Allemagne, les partis fascistes ne sont parvenus au pouvoir par la voie extra-légale. Ils sont parvenus par des voies tout à fait légales, hein, poussés au pouvoir par partie de la classe dirigeante, de la droite, etc. Mais donc, effectivement, il y a des novations. Je pense qu'une des choses que ne peuvent plus vraiment faire les fascistes aujourd'hui à une échelle, disons, de masse, c'est de constituer des milices de masse qui agresseraient de manière systématique, disons, les militants du mouvement syndical ou de la gauche ou des minorités, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits groupes qui le font, qui gravitent, qui ont des liens de mille manières avec le Front National, mais qui n'ont pas la puissance que pouvaient avoir les milices fascistes de masse en Italie ou en Allemagne. Bon, la violence politique est beaucoup moins acceptée aujourd'hui, ça rappelle rétro le fascisme de l'entre-deux-guerres, et donc, d'une certaine manière, les partis de l'extrême droite contemporaine sont suffisamment malins, ou ils ne sont pas suffisamment idiots pour ne pas chercher à mettre à distance tout ce qui pourrait les rapprocher en termes d'apparition du fascisme classique. Hein, ils savent que ça les décrédibiliserait immédiatement sur la scène politique.
Justice pour Clément !
Vive le parti, vive le communisme !
Vive !
Souviens-toi Madrid 2007 dans cette rame de métro. 11 novembre, date où combat Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud.
Quatre camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinato. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo.
Les coups de la matinée, nos frères et sœurs, coups fataliens à Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide rafale.
Meilleur moment pour l'ordi sous l'œil de l'État complice. Assassin Anastasia Pavlova, aidé par la police.
David César et 2003 ans, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusqu'au corps, les eaux.
C'est en sortant de chez lui que t'as battu Fyodor Filat dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non, jamais, on baissera les bras, nos traits n'est pas fascistes.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non, jamais, on baissera les bras, nos traits n'est pas fascistes. Jules se rend compte dans cette station, une lame de 15 cm perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qu'il a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en traite. Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri. S'en prennent à Timur Katcharava et ses deux amis. Trop de morts encore pour Rodenko et Ryukin. 23 décès, 240 blessés, 2010 en Russie.
Retour en Italie, je débarque par
parler de Renato, créateur du label Rinoise, frère de l'ance antifacho, reggae alternatif, va en faire péter la sono. Antifax, il fait planquer à coup de couteau dans le dos. Je ne partirai pas aussi vite que la balle que marquait l'or par sous. En pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue, défenseur des droits des opprimés et des invaincus. Malgré la répression, nous resterons toujours convaincus.
Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris.
Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital.
Hugo Paletta, ça vous étonne ce qui est arrivé il y a 5 ans là, donc qu'il y ait un jeune militant antifasciste qui puisse mourir sous les coups d'un groupe fasciste?
Non, ça m'étonne pas parce que fondamentalement... ces groupes et plus largement l'extrême droite, dont j'insiste, hein, dont le Front National, hein, faut pas oublier les meurtres en 95 de Brahim Bouharam à Paris ou de Ibrahim Ali à Marseille, hein, Ibrahim Ali tué par des colleurs d'affiches du Front National. Hein. Donc disons, le projet de l'extrême droite, au-delà de tous les efforts de respectabilisation, de mettre à distance les éléments les plus violents, de faire attention, etc., leur projet fondamentalement, c'est un projet violent, c'est un projet de purification de la nation. Donc ça peut pas se faire par des voies pacifiques. Donc évidemment que ces groupes attirent des éléments qui viennent aussi pour se battre, pour blesser, pour agresser, etc., et pas vraiment pour des idées, pas du tout même pour des grandes idées généreuses de solidarité, etc., hein. Donc évidemment ça doit arriver, et malheureusement ça risque d'arriver. Si on n'arrive pas à proposer une alternative sociale et politique, si les choses ne changent pas, ces groupes risquent de se développer, y compris dans le sillage de ce qui est un peu le vaisseau amiral de l'extrême droite, à savoir le Front National. Hein, ces groupuscules, ils se développent dans son sillage, et parce que le Front National légitime à une échelle de masse des idées xénophobes et racistes. Et pas seulement le Front National, évidemment. Hein. Quelqu'un comme Manuel Valls qui stigmatisait les Roms en disant qu'ils devaient retourner en Roumanie, en Bulgarie, etc. Bon, quelqu'un comme Manuel Valls, antérieurement quelqu'un comme Sarkozy, mais même antérieurement quelqu'un comme Jacques Chirac parlant du bruit et de l'odeur des Noirs et des musulmans, parce que c'est ça la citation. Bon, évidemment, ça permet ensuite à ces groupuscules de se développer, hein, en disant, c'est un peu le mot de Jean-Marie Le Pen, hein, à terme, les gens préféreront l'original à la copie.
Donc le Front National rebaptisé Rassemblement National, ça fait partie du ripollinage.
Bah, c'est très drôle en plus, parce que Rassemblement National, c'est une vieille histoire. Hein. Rassemblement National, c'était déjà le nom d'un groupe créé par un ancien vichiste qui s'appelait Tixier Vinancourt dans les années 50, si je ne me trompe pas. Et Rassemblement National Populaire, c'était le nom d'un parti qu'avait créé Marcel Déat pendant le régime de Vichy. Donc voilà, on est dans une énième stratégie de lissage, de ripollinage, de faire oublier les liens du FN avec le projet fasciste classique. Mais d'une certaine manière, ça ne devrait tromper personne pour qui a de la mémoire. Hein, le problème, c'est que, notamment, une partie des médias et une partie des dirigeants politiques manquent de mémoire ou s'acharnent à faire oublier ce qui pourtant est important politiquement, c'est que ce projet, il est mortifère et que à l'horizon, il y a toujours l'expulsion et potentiellement l'extermination. Donc, on peut se raconter des histoires, mais c'est ça l'important. Et c'est pour ça que l'antifascisme est non seulement d'actualité, mais extraordinairement urgent.
Mais Hugo Paletta, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine forme d'indulgence aujourd'hui par rapport à ces mouvements fascistes, une tolérance quoi.
Oui, bien sûr, hein, on a tout un climat de tolérance, de dérive vers les idées les plus nationalistes et les plus racistes, les plus xénophobes. Hein. Quand on est dans un continent qui n'a pas de problème en réalité à laisser mourir des milliers de gens chaque année depuis une vingtaine d'années en Méditerranée ou au-delà de la Méditerranée, je trouve que ça donne une idée de l'ensauvagement, comme dirait Césaire, de ce continent, d'une certaine manière, d'une forme de déshumanisation. Et tout ça, ça évidemment, ça donne du crédit aux idées nationalistes, aux idées xénophobes, aux idées racistes. Alors aussi bien le Front National, mais même les groupuscules les plus proches hein, du fascisme classique, peuvent trouver dans ce type de période-là, où les classes dirigeantes, d'une certaine manière, se radicalisent sur le plan de l'autoritarisme, sur le plan du nationalisme, de la xénophobie, etc. Hein, ces groupuscules-là, et évidemment un parti comme le Front National, se trouvent une légitimation hein, là-dedans. Hein, donc voilà, effectivement, on est dans une période extrêmement dangereuse où non seulement ces idées se banalisent, mais ceux qui les portent hein, peuvent avoir pignon sur rue d'une certaine manière.
Et le procès Méric continuera toute la semaine prochaine à la cour d'assises de l'ancien palais de justice de Paris à partir de 9h30. Les audiences sont ouvertes au public, même si les places sont restreintes. Et pour en savoir plus sur l'histoire de cette extrême droite violente, vous pouvez vous procurer l'ouvrage de Frédéric Charpier, Les Plastiqueurs, et celui d'Hugo Paletta, La possibilité du fascisme en France, tous deux parus ou à paraître aux éditions La Découverte.
C'était Comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages. Mot dièse comme un bruit. Abonnez-vous au podcast et sur les réseaux sociaux. Après les infos, vous retrouverez La Preuve par Z de François Gigel. Et nous, on se retrouve samedi à 16h pour une émission spéciale en direct, en public et en musique depuis la fête de l'humanité, avec des historiens et historiennes qui fourbissent des arguments pour penser le temps présent. Gérard Noiriel et son Histoire populaire de la France de Jeanne d'Arc à Macron, et Laurence de Coq pour Dans la classe de l'homme blanc.